Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette, très content d'être avec vous alors que c'est le printemps. Le printemps, c'est signe de dégelé, mais aussi parfois, ça va mieux en transport adapté. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard. Et aussi, pour toutes sortes de belles raisons, c'est les impôts qui arrivent. Désolé d'être un prophète de malheur à ce moment-ci, mais on va vous aider aujourd'hui avec tout ça. Donc, on a beaucoup entendu parler la semaine dernière de l'accessibilité pour certaines personnes, la difficulté plutôt d'accéder au transport adapté pour certaines personnes. On reçoit, pour bien comprendre la situation, Mario Gagnon, directeur du transport adapté à la STM, et Annie Hottin, directrice générale du RUTA de Montréal. Pour la suite, on chronique Parasport avec Émilie Bouchard-Labonté. On en apprend plus sur les crédits fiscaux pour les personnes handicapées au temps des impôts. On rencontre un chercheur qui utilise rien de moins que le monde virtuel pour faciliter la réadaptation motrice. Et en ouverture de cette émission, on prend des nouvelles de Omar Lacheb qui a eu gain de cause contre l'Université de Montréal puisque sur 6 étages, on n'avait pas de toilette. Alors voilà, tout ça sur Canal M et bien plus, la radio de Vues et Voix. Le Journal de Montréal a titré de manière assez malhabile, avouons-le, qu'il attaquait. Attention, il faut entendre le mot ici, attaquait l'Université de Montréal. Je ne sais pas ce qui s'est passé, quel genre d'escadron on a dû déployer pour se protéger, mais bon, enfin. Les commentaires ensuite de l'article ont été tout aussi forts, voire très inquiétants. Parfois, ils étaient même islamophobes, mais pourtant, faut reconnaître ses droits, faut les faire reconnaître, c'est essentiel. Et entre vous et moi, accéder dans les toilettes, dans un lieu public, quand on va pour un examen de la vue, c'est assez légitime. Bon, allez, j'ai assez parlé. On laisse maintenant parler le principal intéressé, Omar Lacheb. Bonjour, Omar.
Bonjour, M. Racette. Merci de m'avoir invité.
C'est un grand plaisir. Avant tout, j'aimerais que vous nous rappeliez exactement ce qui s'est passé ce jour où vous êtes allé au pavillon Jean-Briand de l'Université Montréal.
En fait, comme vous venez de le dire, j'étais là pour un examen de la vision. Je suis un habitué à cet immeuble. Et après l'examen, j'ai décidé de chercher une toilette adaptée. Et on n'avait pas au rez-de-chaussée, il y avait des travaux. Puis il y avait un signal qui disait de monter au deuxième. Malheureusement, au deuxième étage, les toilettes n'étaient pas accessibles. Il y avait deux cabines, mais étaient petites pour que mon fauteuil puisse y entrer. Par la suite, j'ai demandé à la bibliothécaire au même étage si elle savait si on avait des toilettes adaptées. Elle ne le savait pas non plus. Elle a essayé d'aider en appelant le concierge qui ne répondait pas. Étant pressé, j'ai décidé d'essayer ma chance dans les autres étages et malheureusement, et on n'avait pas non plus.
Vous avez dû vous promener sur 6 étages du pavillon, c'est bien ça?
Oui, absolument.
Bon, c'était absolument. Une course.
C'était une vraie course contre le chrono, si on peut dire. Et malheureusement, en descendant au rez-de-chaussée, j'avais plus le choix que d'aller au McDonald's dans le coin de rue. C'était un peu trop tard. Donc, j'ai décidé de prendre action parce que je trouvais que c'était inacceptable qu'en 2014, un lieu public, une université, un immeuble de 6 étages n'ait pas une toilette ou deux toilettes accessibles.
Oui, c'est quand même un minimum. Une toilette pour hommes aussi parce que, on vous a offert d'aller aux toilettes des femmes. Puis, puisque celle-là était accessible... c'est quand même votre choix que ne pas aller dans les toilettes des femmes.
On m'avait dit qu'il y avait peut-être.
Ah, il y avait peut-être, oui.
Okay. C'était à la fin et donc j'ai décidé de ne pas aller encore une fois chercher. C'était pas certain. Puis malheureusement, donc j'ai décidé d'aller au McDonald's parce que je savais qu'il y aurait une toilette adaptée.
Donc, vous avez intenté cette action collective, en fait. Non, c'est pas une action collective, pardon, c'est une poursuite en vertu des droits et libertés. Vous avez gagné, c'est ça?
Oui, je me suis dirigé vers la Commission des droits de la personne pour deux raisons. La première raison, parce que j'ai vu qu'il y avait atteinte à ma dignité comme personne et un droit. L'Université de Montréal, comme institution publique, est régie par le Code du bâtiment. et par le guide des conceptions sans obstacle, et j'ai trouvé que c'était inacceptable. La deuxième chose, c'est que je voulais porter ma modeste participation au débat de l'accessibilité pour avancer les choses.
Oui, bien. Mais je remarque une chose, Omar. En fait, vous avez fait appel au CRAR, qui est le Centre de recherche Action sur les relations raciales, pour être aidé dans votre défense. Pourquoi il n'y avait pas un groupe de personnes handicapées qui pouvaient vous accompagner?
Ben, je n'ai pas, en 2014, disons que le CRAR, c'était la seule option que je connaissais.
OK.
Je n'ai pas fait ou je n'ai pas pensé à aller chercher un groupe, malgré que je connais qu'il y a des groupes comme le Rapplique qui sont très actifs, qui ont un groupe de pression, qui font un beau travail de revendication, et qui ont même un recours collectif, si je comprends bien, contre la ville de Montréal et la STM dans le sens de l'accessibilité universelle.
Okay.
Mais il n'y a pas eu vraiment contact.
OK. Écoutez, on parle du fait que vous avez eu un dédommagement individuel, bon, ce qui est normal pour les préjudices, mais au-delà de ça, l'UDM a maintenant une obligation à l'égard de tout le monde. Expliquez-nous ça. Expliquez-nous, au fond, ce que vous avez gagné pour la collectivité.
C'est ça qui est important. Je trouve que le message de monétaire, qui n'est pas encore décidé, là, je dois le dire, je n'ai pas encore reçu de montant. La décision n'est pas encore prise par l'Université de Montréal. Mais le message le plus important, l'autre volet du jugement de la commission, c'est que l'université doit vérifier, s'assurer que toutes ces toilettes dans tous ces pavillons, et pas juste ce pavillon à la rue Jean-Brion, tous les pavillons doivent être conformes à l'accessibilité universelle.
Donc, c'est tous les étudiants et étudiantes, peu importe qu'ils utilisent un fauteuil ou autre, qui devront dans les prochaines années avoir accès, comme c'est normal, à une toilette, c'est ça?
Je l'espère parce que je vous dirais même que 2 ans après, j'ai visité la fameuse clinique et la toilette au rez-de-chaussée n'avait pas de signalisation, la porte n'avait pas de bouton automatique, elle était visitable et elle n'était pas universellement accessible, je dirais.
Donc, mais j'entends, Omar... Omar Lachapelle, que vous connaissez bien les concepts de l'accessibilité universelle. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais vous avez non seulement combattu les obstacles à l'Université de Montréal, mais vous avez déjà distribué des rampes d'accès. Vous avez même une initiative que vous avez développée à cet égard.
Oui, ça c'était en 2016, deux ans après. Disons que l'expérience que j'ai vécue à l'Université de Montréal m'a un peu encouragé à aller faire des recherches. Et ce que j'ai trouvé, c'est que la loi de l'accessibilité ou le code du bâtiment n'obligeait pas les petits commerces de 300 mètres carrés et moins à être accessibles. Alors, je me suis inspiré d'une initiative à Toronto et je me suis dit, mais pourquoi n'allons pas parler avec les petits commerces, les sensibiliser en leur offrant des rampes d'accès pour un peu démarrer le débat dans les petits commerces. Et voilà, oui, c'était une initiative bénévole que je continue avec des bénévoles pour cette année aussi.
OK, bien bravo, félicitations pour votre engagement. Avant de vous quitter, est-ce qu'il y a des suites à cette histoire contre l'Université de Montréal ou encore d'autres combats là, dans lesquels on va vous retrouver bientôt?
Moi, j'aimerais juste te dire que je participe d'une façon modeste à ce que beaucoup de gens font dans les dernières années. À dire que l'accessibilité universelle doit être un débat de société aujourd'hui, que la ville de Montréal, qui se veut une ville intelligente, doit être accessible universellement.
Bien sûr.
Et qu'il y a en fait, les décisions judiciaires sont importantes parce qu'elles déterminent des règles minimales pour des institutions publiques à privées.
Mais en même temps, il ne faut pas oublier que dans la politique en accessibilité universelle de la ville, elle s'est engagée dans ses principes directeurs à assurer, attention, un leadership en matière d'accessibilité universelle. Donc, on ne parle pas juste de normes minimales. Là. Il faut aller un petit peu au-delà de ça pour faire de Montréal une ville enviable de partout dans le monde. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon. On l'espère.
Alors, tout un programme. Merci beaucoup, Omar Lachapelle.
Merci à vous. Bonjour.
Au revoir. Ah, on dirait du brache, je ne sais même pas si c'est ça. J'arrive pas à voir notre ami en studio, mais donc c'est idéal pour dévaler les pentes. Et dans presque un an, se tiendront les Jeux paralympiques 2018. Donc notre chroniqueuse sport, Émilie Bouchard-Labonté, nous présente les étoiles qui pourraient peut-être briller dans la délégation canadienne. Bonjour Émilie.
Bonjour, avez-vous hâte aux Jeux paralympiques?
Ben moi je suis déjà prêt.
Moi aussi.
Bon, et c'est même tellement vrai que vous avez des idoles, ou en fait, des étoiles en tête qu'on pourrait probablement voir dans la délégation canadienne. Donc, on commence par qui?
Bien, moi, j'irais en ski paralpin parce qu'on avait déjà parlé lors de ma dernière chronique. Le lendemain, les championnats du monde de ski paralpin se mettaient en branle et on a eu quand même des bons résultats de la part de l'équipe canadienne. Je vous avais parlé d'Alexis Guimond. Première médaille au championnat du monde.
Oui, première.
Donc, médaille de bronze en slalom géant pour lui. Donc, tous les espoirs sont permis pour l'an prochain. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de Mac Marcoux, qui est un jeune, il n'y a pas 20 ans encore. Ça sera ses deuxièmes Jeux paralympiques s'il participe à ceux de Pyeongchang. Et lui aussi, il a fait fureur lors des derniers championnats du monde. 5 médailles, donc 4 médailles d'or, donc 4 titres de champion du monde pour lui.
Ça.
Alors, il avait été médaillé aussi à Sochi il y a 3 ans. Mm-hmm. Alors, reste à voir s'il peut poursuivre sur cette lancée-là pour pouvoir ensuite atteindre son plein potentiel, puisqu'il reste encore plein de belles choses à venir pour lui, mais pour la prochaine année.
Mais à côté de lui, il y aurait Alana Ramsey aussi,
si
je comprends bien.
Oui, exactement, qui elle est comme dans la même catégorie d'Alexis en ski debout chez les femmes, et qui a gagné au moins 2 médailles aussi en une albertaine, donc elle aussi sur le podium des championnats du monde. Mm-hmm. Alors, ça va être très intéressant à suivre. Aux Jeux paralympiques d'hiver, il n'y a pas beaucoup de sports paralympiques si on compare avec les Jeux paralympiques d'été ou que du boccia, du parathlétisme, de la paranatation. Il y en a plus d'une dizaine, tandis qu'on est un peu plus limité en sport d'hiver, ski paralpin dont je viens de parler, paracurling, mm-hmm. para-hockey sur glace et ski paranordique aussi.
Mais avant de parler des autres sports, qui sont d'ailleurs les sports nationaux, qu'on soit dans les Maritimes ou dans Eastern Canada, je dis ça en niaisant, là, Québec et Ontario, donc j'avais presque envie de faire la blague politique entre les deux parce que vous avez parlé d'Alexis Guimond, le Québécois, qui, aux côtés de l'Albertaine, vont faire plaisir à bien du monde, coast to coast.
Oui, entre les deux, on a Mac Marcoux, qui est un Ontarien.
Bon,
alors,
voilà.
Il y a de la profondeur dans tout le pays en sport paralympique, faut le dire.
Bon, merci. Et donc, en ski paranordique, c'est-à-dire l'équivalent du ski de fond,
oui.
Vous avez aussi pointé une autre étoile à surveiller.
Mais Brian McKeever, qui lui est un Albertain, donc on est encore dans l'Ouest canadien à ce moment-là. Multiples décorations paralympiques, mais aussi en championnat du monde. Il vient de récolter la semaine dernière son 10e titre mondial. Alors, un autre athlète à surveiller. Et il est si bon, cet athlète, qui compétitionne dans la catégorie des athlètes avec une limitation visuelle. Donc, il y a un guide qui le guide mm-hmm. Pour ses courses. Au championnat du monde la semaine dernière, c'était Grand Nikishima, qui est un athlète qui fait la Coupe du monde pour valide, qui est au sein de l'équipe canadienne. Mais Brian a aussi participé à des Coupes du monde chez les, entre guillemets, valides. Donc, il est de ce calibre-là. Et là, il détruit tout sur son passage. Encore une fois, à 37 ans, encore une fois, il est dominant complètement dans sa catégorie au championnat du monde. Un autre athlète, là, vraiment à surveiller. Et on a un petit Québécois aussi, bien, pas si petit que ça. C'est Sébastien Fortier, qui était à ces championnats du monde-là la semaine dernière. Mm-hmm. A participé aussi aux Jeux paralympiques à Vancouver et à Sochi, donc peut-être une troisième participation l'an prochain.
Ah bon, ben jamais 203 comme on voit. En para-hockey maintenant, parce que bon, on a dit qu'on en donnerait un peu au Québec et à l'Ontario, qui est-ce qu'on pourrait voir au prochain Paralympique?
Bien, d'abord, chez les Québécois, Dominique Larocque, qui est l'un des deux gardiens de but de l'équipe, lui était à Vancouver, mais à titre d'attaquant. Quand mm-hmm. Benoît Saint-Amand, un autre gardien de but québécois, a pris sa retraite de la compétition après les Jeux Les Jeux paralympiques, Dominique Larocque a décidé après la médaille de bronze obtenue à Sochi à titre d'attaquant, il a décidé de garder les buts maintenant. Donc, c'est un des deux gardiens partants de l'équipe nationale. Il y a un des meilleurs athlètes considérés au monde, Billy Bridges, qui, lui, n'est pas Québécois, mais qui est vraiment un athlète vraiment à surveiller sur la scène internationale. Il vient de l'Île-du-Prince-Édouard, si je me souviens bien. Donc, on est encore dans notre thématique coast to coast aujourd'hui. Uh-huh. Et Billy Bridges, Il y a déjà 4 Jeux paralympiques derrière la cravate. C'est le premier athlète canadien au sein de l'équipe nationale de para-hockey sur glace qui a atteint le plateau des 300 points. Donc, c'est vraiment un athlète. Il est vraiment considéré comme un des meilleurs athlètes au monde dans son sport.
OK. Bien, on a encore un peu de temps. Et c'est le temps, donc, du para-curling.
Oui, para-curling, les Canadiens sont champions paralympiques en titre, mais ça va. Je vérifie un peu leurs statistiques. Ça a un peu moins bien été au dernier championnat du monde l'an dernier. Ils n'ont pas atteint les rondes éliminatoires, ont été éliminés après les rondes de qualification. Donc, à voir ce qu'ils font en para-curling, si je me souviens bien, c'est que ce n'est pas comme en curling canadien où c'est une équipe le Canada est très fort en curling. Alors, c'est une équipe albertaine qui se bat contre une équipe ontarienne. Puis, bon, celle entre les deux gagne le tournoi, va aller aux Jeux olympiques. Okay. Là, ils prennent vraiment les meilleurs éléments de chaque équipe et créent une équipe. Alors, on va espérer que ces éléments-là soient les meilleurs et qu'ils puissent défendre leur titre avec succès à Pyeongchang.
En tout cas, si jamais il y a des gens qui doutent que le sport, c'est politique, là, aujourd'hui, ils ont juste à entendre notre émission. Bon, il reste à peu près une minute, c'est ça? Oh, presque une minute. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur le chef de mission de la délégation, l'ancien para-hockeyeur Todd Nicholson.
Oui, il y a à peu près un mois jour pour jour, le 24 janvier, c'est lui qui a été nommé chef de mission de l'équipe canadienne. Todd Nicholson, il compte 15 ans, c'est un ancien para-hockeyeur, que vous venez de le dire. Il possède 15, je pense qu'il était pendant 15 ans, ça a été lui, le capitaine de l'équipe canadienne de hockey sur luge. Décoré, évidemment, à des championnats du monde, à des Jeux paralympiques. Une personne très, lorsqu'il a pris sa retraite, très impliquée au Comité international paralympique pour aider tout le mouvement paralympique à avancer. Donc, très bon choix pour mener cette équipe canadienne-là, cette équipe nationale aux Jeux paralympiques de Pyeongchang.
Donc, Émilie Bouchard, la bonté pour que ça s'imprime dans notre mémoire. Dites-nous, qu'est-ce qu'on attend dans un an, les paralympiques, où, comment?
Les Jeux paralympiques Pyeongchang, mars 2018. Mettez ça à votre agenda. Plein de nouvelles, plein de choses excitantes qui vont se passer. Puis on a encore un an pour découvrir tous ces athlètes-là qui vont y participer.
Et on est grandement aidé par vous. Rappelons, Émilie Bouchard-Labonté, que vous êtes rédactrice sur Sport.com, qui s'intéresse entre autres aux paralympiques.
Exactement.
Merci. Ça nous rend pas toujours heureux, mais c'est le temps de l'année où il est nécessaire de faire ses impôts. Donc, si vous êtes en situation d'handicap, vous pouvez peut-être avoir accès à quelques déductions fiscales. Est-ce que vous le saviez? Enfin, je ne sais pas si vous le saviez, mais avec nous, Annie Morissette de Finhandicap, qui est conseillère et comptable pour Finhandicap, est avec nous. Donc, Annie Morissette, bonjour.
Bonjour Benoît, ça va bien?
Oui, ça va très bien, merci. Avant de plonger dans les chiffres, les programmes ou même les numéros de formulaire, là, je vous imagine à table avec tout ça, comment savoir si notre situation de handicap nous rend admissible aux différents programmes dont vous allez nous parler aujourd'hui?
Oui, bien tout d'abord, quand on parle d'handicap, il y a deux genres d'handicap, en gros, c'est physique ou mental. Mmh. Physique, c'est marcher, parler, se nourrir, se vêtir et tout, là. Dans le fond, il y a deux grosses conditions essentielles là, à respecter. La première, c'est faut se poser la question, est-ce que la personne en question prend un temps excessif à accomplir une tâche quotidienne?
Okay.
Puis ça, pour au moins 90 % du temps. Maintenant, si cette condition est respectée, là, on peut aller à la deuxième condition essentielle, ce serait de savoir, est-ce que c'est raisonnable de s'attendre à ce que la déficience dure pour au moins, ben, en fait, plus de 12 mois consécutifs?
Donc, ce n'est pas le 6 mois, là. C'est quoi le 6 mois? Parce que parfois, on dit c'est temporaire quand c'est 6 mois ou plus de 6 mois plutôt.
Non, c'est plus de 12 mois.
Ah oui, OK. Ça a toujours été comme ça?
Oui.
OK, excusez-moi.
Oui. Donc, ça va. Donc, si c'est plus que 12 mois, à ce moment-là, ces deux conditions-là sont respectées. Alors là, ça vaut la peine de remplir le formulaire par un professionnel de la santé. Mm-hmm. Maintenant, quand je parle de professionnel de la santé, ça peut être un médecin, un optométriste, ça peut être un ergothérapeute. Il y a quand même une liste assez complète sur le site de Revenu Canada et le site de Revenu Québec. Mm-hmm. Donc, ça vaut la peine d'aller voir pour voir si on est éligible.
Donc, on comprend bien comment on peut y être éligible, Annie Morissette, mais comme il y a 40 subventions et crédits d'impôt pour personnes handicapées au Canada, je pense qu'il faudrait que vous nous pointiez là, les plus fréquents ou les plus utiles. Commençons peut-être par les crédits d'impôt au fédéral.
Bien, au fédéral, en fait, il y a le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, c'est vraiment le CIPH.
OK.
C'est un crédit qui est en fait de 8 001 $ pour 2016, mais c'est majoré à 15 %. Donc, ça vaut un potentiel de 1 200 $ de remboursement. Maintenant, c'est un crédit non remboursable.
Ah,
donc,
bien.
Donc, non remboursable, c'est contre les impôts payés. Donc, ça peut être les impôts payés à la source lorsqu'on est salarié.
OK. Donc, il faut déjà les avoir payés. Là. Ça ne devient pas un chèque à la toute fin.
C'est ça.
Bon.
Ça dépend vraiment si on a des impôts à payer ou si on a payé des impôts au courant de l'année.
OK. Un deuxième programme peut-être important ou intéressant au fédéral?
Au fédéral, ben en fait, il y a plusieurs crédits dans le fond. Là. Il y a aussi les montants pour aidants familiaux.
Ah oui.
Oui. Donc ça, c'est un supplément en plus du crédit pour personnes handicapées.
OK.
Qui est pour une personne, donc supposons le conjoint n'a pas de revenus puis est handicapé, bien, il y a une possibilité d'avoir un montant supplémentaire.
Hein. OK. Et
ce montant-là, ça représente un autre 318 $. Encore là, c'est un crédit non remboursable.
Ah oui.
Donc, ça dépend vraiment de...
la situation
de
financière des revenus,
ouais.
L'état des revenus de la personne. Bon.
Effectivement, oui.
Peut-être on pourrait se pencher au niveau du provincial ou vous pensez qu'on pourrait ajouter quelque chose au niveau fédéral?
Bien, au fédéral, il y a, en fait, le formulaire à remplir. C'est un formulaire qui s'appelle le T2201.
T2201. Retenez
oui.
ça, tout le monde.
Puis, finalement, oui. pour, en fait, le provincial, c'est un montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
OK.
Donc, ce montant-là, on peut on peut être éligible dans le fond. Si on a rempli le formulaire du fédéral, on a simplement à faire une copie pour le provincial, puis on va être éligible également au provincial.
Ah, ça, c'est vraiment le fun, ce que vous venez de nous dire là, c'est qu'il est possible de remplir qu'une seule fois pour les deux paliers.
Effectivement, oui.
Bravo. Ça, c'est le fun, ces économies-là. Merci à Madame Morissette, qui est comptable. Donc, ensuite, parlons peut-être des crédits d'impôt pour le palier provincial, donc au Québec. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qui est important?
Bien, pour le provincial, mm-hmm. Dans le fond, c'est un crédit encore là non remboursable qui
okay.
vaut, après la majoration, là, ça vaut un potentiel de remboursement de 525 $.
OK, oui.
Puis, il y a une subtilité, par contre, au provincial. C'est que si la personne en question handicapée, que ce soit un enfant ou une personne à charge de plus de 18 ans, ne peut pas vivre seule, alors là, ce serait intéressant de remplir le formulaire du Québec. Parce que le formulaire du Québec, il y a une petite case à remplir qui dit justement si la personne ne peut pas vivre seule, qui donne droit à un crédit qui est remboursable cette fois-ci de 1 167 $ pour 2016.
Okay.
Donc, c'est quand même intéressant.
C'est important, bien oui. Et puis, est-ce qu'il existe des crédits remboursables intéressants dont on pourrait parler brièvement, parce qu'il nous reste malheureusement pas assez de temps?
Ben, pour les enfants, quand que c'est sûr que bon, déjà, lorsqu'on a des enfants, on a des allocations canadiennes pour enfants. Mm-hmm. Donc, il y a une bonification lorsqu'on a un enfant handicapé, qui est la prestation pour enfants handicapés.
Okay.
Donc là, et ça, ça dépend du revenu familial. Donc, okay. Je ne suis pas en mesure de dire combien ça représente.
En fait, ce qu'il faut faire, c'est s'asseoir avec vous chez Finhandicap pour bien faire le tour de tout ça et s'assurer d'avoir les déductions auxquelles on a droit, c'est ça?
Effectivement, c'est le cas.
Bon.
Dans le fond, c'est vraiment... tous les cas sont différents, donc il faut prendre le temps vraiment vérifier le tout. Là.
Exactement. On peut vous retrouver pour plus d'informations sur finhandicap.com. Merci beaucoup, Annie Morissette.
Parfait. Merci beaucoup, Benoît.
À bientôt.
Bonne journée.
Bonne journée.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
Aujourd'hui, c'est le printemps. Je l'ai dit plusieurs fois à l'émission, ça nous fait du bien de se le rappeler. Et c'est le cas pour plusieurs régions du Québec et même au Canada. Donc, peut-être que vous êtes content parce que la neige a fondu. C'est plus facile de circuler sur Montréal. C'est plus facile d'emprunter à vous, usagères, usagers du transport adapté, les routes de Montréal. Donc, pour comprendre la situation du transport adapté, on a deux invités de choix avec nous. D'abord, en studio, Mario Gagnon, directeur du transport adapté de la STM. Bonjour, Mario.
Bonjour, Benoît.
Merci d'être là.
Bien, merci beaucoup. Je suis un peu nerveux, mais bien content de m'adresser à la clientèle.
Très bien. Et Annie Hautin, directrice générale du regroupement des usagers du transport adapté de Montréal. Bonjour, Annie Hautin.
Bonjour, Benoît. Bonjour, M. Gagnon.
Bonjour, Mme Hautin.
Donc, merci aussi d'être avec nous. D'abord, je vous demanderai à chacun, chacune, et je commencerai avec Mario Gagnon, directeur du transport adapté de la STM, de nous dresser, disons, le bilan du transport adapté pour cet hiver. Même si l'hiver n'est pas terminé, là, jusqu'à maintenant, on peut s'entendre sur le fait qu'on a eu le plus gros de oui. l'hiver. Donc, Mario Gagnon, directeur du transport adapté de la STM, comment vous lisez cette situation-là?
En fait, vous savez, chaque hiver est différent et pour nous, on va commencer de façon plus globale. C'est sûr que dans les circonstances où la STM doit faire face à une croissance constante de la demande, mm-hmm. la constante est là d'année après année, mm-hmm. même en hiver.
Ouais.
Dans un contexte de gel de financement de la part du MTQ pour le programme, donc on va parler aujourd'hui, pour nous, le bilan est positif. Pas parfait, certes, mais tout de même, la STM réussit à faire face à cette croissance tout en améliorant la qualité de service.
Donc, en fait, ce que vous me dites, c'est que pour donner le même service de transport adapté, vous avez moins d'argent parce qu'on a donné le même montant depuis quelques années avec plus de demandes au transport adapté.
Plus précisément, depuis 2012, il y a eu un gel du financement au niveau du MTQ dans le programme de transport adapté. Nous, depuis ce temps-là, on doit faire face à une croissance, mm-hmm. mais avec le même argent.
OK.
C'est la STM qui compense, mais il y a bien sûr aussi le fait que nous, on se doit de donner le service quand même, mais protéger aussi la livraison de service dans le sens qu'on va garder les sous maximum pour assurer nos engagements des gens qui ont réservé.
Mm-hmm.
Et nos clients vont sûrement s'en ont rendu compte. Effectivement, il y a certains services supports, dont les centres d'appel où ce qu'on doit, on doit malheureusement mettre moins de personnes qu'on okay. devrait faire compte tenu de la croissance.
OK. On va parler plus en profondeur de ce service à la clientèle, mais d'abord, je vais m'adresser à Annie Hautin, directrice générale du RUTA Montréal. Madame Hautin, vous, quel bilan vous faites de cet hiver et son transport adapté?
Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que pour ce qui est de l'hiver, la méthode utilisée par le transport adapté s'est modifiée.
OK.
Et cette année, pour ma part, je pense que c'est vraiment une année de test parce qu'il y a eu beaucoup de neige. Fait que parce que dans les années auparavant, jamais la STM a eu besoin là, elle a quand même une gradation là, dans sa fonctionnalité, puis elle n'a pas eu besoin d'aller si haut dans la gradation. Mais je crois que cette année, là on n'a pas, j'ai pas eu le temps de m'asseoir avec eux pour leur demander, mais je crois que cette année, ils ont dû aller plus loin dans la gradation dans la façon là, de gérer là, les intempéries.
Okay.
Ce qui fait que ça cause des désagréments très importants là, pour la clientèle, mm-hmm. parce que dans le fond, on se retrouve avec des annulations, puis des annulations par motif un peu, puis des situations là, qui sont dérangeantes.
OK. On va revenir sur ces situations-là particulières. Mon Dieu, il y a eu du S là-dedans. On dirait un vent d'hiver. Je m'excuse. Donc, ce que vous situez à Niotin, pour qu'on se comprenne bien, c'est que c'était une année test pour la STM. C'est ce que vous dites.
Et... Ben, je pense, en tout cas. C'est ma perception.
OK, c'est votre perception. Et aussi qu'il y a eu plus de neige que prévu. Est-ce que c'est ça qu'on peut se dire ensemble?
Ben, peut-être pas plus de neige que prévu, mais plus de tempêtes que les deux dernières années, peut-être.
OK. Mario Gagnon, directeur du transport adapté, comment vous réagissez à ça, à cette lecture?
En fait, la nouvelle stratégie dont Mme Autain parle, elle a tout à fait raison. On a mis en place en 2013 une nouvelle façon d'aborder la neige.
OK.
Avant 2013, ce qu'on faisait, et plusieurs auditeurs vont s'en rappeler, lorsqu'il y avait des chutes de neige, on se devait malheureusement d'annuler des déplacements. Et ça, malheureusement aussi, on devait toujours, souvent, en tout cas, prendre les clients de la déficience intellectuelle qu'on déplaçait vers les ateliers qui, eux, se déplacent en heure de pointe. Mm-hmm. Malheureusement, on devait annuler leurs déplacements. Et là, on parlait de milliers de déplacements qu'on annulait.
Mais vous annuliez spécifiquement les personnes qui avaient une déficience intellectuelle?
Oui, oui, on annulait leur déplacement. Pourquoi?
Okay.
Pour se donner une chance lors des heures de pointe, de pouvoir servir le reste de la clientèle. Parce que lorsqu'il y a chute de neige, il y a un fait qui est là et il demeure. Mm-hmm. C'est que la vitesse commerciale de l'île de Montréal, elle est beaucoup ralentie.
Oui, mais depuis quelques années, on remarque qu'il y a davantage de congestion.
Et c'est mathématique. Mm-hmm. S'il y a un ralentissement de vitesse de 10 à 20 aux heures de pointe, je parle beaucoup d'heures de pointe parce que c'est là qu'il y a notre maximum de capacité ou ce qu'on doit livrer à la clientèle ou dont on doit livrer nos déplacements. C'est clair que si la vitesse commerciale descend de 20 ça me prend 20 % de plus de véhicules.
Okay.
Mais ces véhicules-là, qui sont réservés d'avance en contrat et autant que nos minibus, on ne les a pas.
Ouais.
Alors, on se doit de faire des choix difficiles.
Vous avez dit quelque chose, par exemple, je sais qu'on va vers là pour expliquer comment on fait pour gérer, au fond, ces périodes de pointe très difficiles en hiver avec plus de tempêtes. Mais vous avez dit quelque chose... En 2013, dans le fond, on refusait en bloc un groupe de personnes, puis on a mis fin à ça. Je comprends, c'est carrément discriminatoire. Là.
C'est la beauté de le nouveau service qu'on a implanté depuis 2013. Ce qu'on fait, c'est que le service, les engagements qu'on avait d'avance, les gens qui ont déjà réservé, on les respecte, cet engagement-là. On ne fait plus d'annulation à l'eau.
Okay.
Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'à l'annonce d'une chute de neige, le lendemain, on évalue la capacité qu'on peut faire en heure de pointe pour le lendemain. Et c'est là, malheureusement, qu'on commence à annoncer qu'il y aura des restrictions le lendemain pour les heures de pointe.
OK. Attendez, on va expliquer ça comme il faut, étape par étape, comme dirait l'autre. J'ai failli dire la chanson Step by Step. Enfin, je m'excuse. Annie Autain, on est du même âge. Peut-être que vous avez chanté la même chanson que moi, Step by Step.
Oui.
Donc, Annie Autain, je suis désolé, je ne pensais pas que je parlerais de New Kids on the Block aujourd'hui. Je suis vraiment désolé à mes auditeurs, auditrices. Donc, est-ce que vous lisez la même chose que Mario Gagnon? Donc, ce qui a été fait depuis 2013, c'est de garantir les déplacements qui sont déjà réservés, mais quand il y a des tempêtes qui s'amènent, au fond, on est obligé de refuser ceux qui n'avaient pas déjà réservé. C'est ça qui se passe? Est-ce que ça que vous constatez aussi?
Oui, mais sauf que c'est ça. Moi, en tout cas, jusqu'à date, là, refuser, on l'avait pas vécu tout à fait. Là.
Okay.
C'était plus, on demandait aux gens de déplacer leur réservation en dehors des heures de pointe. Mais de refuser des déplacements, ça, moi, je l'avais pas encore vécu. Ça fait partie là, de... C'est ça que moi, j'ai pas comme information. Là, le pourquoi on est arrivé là dans les dernières semaines à être obligé de refuser. Mm-hmm. Parce que ça veut dire que si on en est rendu à refuser, c'est parce que on la capacité là est vraiment au maximum, là, puis les conditions sont vraiment exécrables, là, puis c'est impossible de déplacer les gens.
Okay.
Mais effectivement, le fait que tous les gens conservent leurs déplacements quand une réservation est faite avant. C'est comme ça que ça se passe. Ça, je peux le confirmer.
OK. Écoutez, moi, j'essaie de me mettre à la place là, des gens qui réservent leur transport adapté, qui ont besoin du transport adapté. Le mouvement, pendant des années, a travaillé très fort pour atteindre un zéro refus. Pour que les gens comprennent, le zéro refus, ça veut dire vous réservez, on ne peut pas vous refuser Peu importe le motif, en fait, qu'il soit lié au loisir, puis on s'entend que le loisir, c'est pas toujours du loisir. Hein? Rencontrer son client dans un café, c'est difficile même pour quelqu'un au service à la clientèle de décider si c'est pas ou c'est du travail. Enfin, bref, ça, c'est une autre question. Mais donc, précisément, pendant l'hiver, quand il y a des tempêtes qui amènent trop de neige ou que les déplacements sont beaucoup trop difficiles, on refuse. Est-ce que c'est le cas, Mario Gagnon?
Oh. Bon, il y a des nuances, effectivement. Madame Hottin a raison. Cette année, on est allé un petit peu plus loin dans la démarche. Est-ce qu'il a fallu qu'on refuse carrément l'ensemble des déplacements d'une journée, même en dehors des heures de pointe, parce qu'il y avait eu deux tempêtes, une arrière de l'autre. Vous en souvenez?
Okay. Oui, oui. Alors, ça s'amassait pas mal devant les portes.
Et oui. Puis effectivement, pour parler devant les portes, nous, il faut comprendre aussi que sur le réseau régulier, les artères sont assez bien déblayées parce qu'effectivement, la ville, ils ont un bon programme de neigement et ils sont en mesure de pouvoir déblayer rapidement les artères commerciales qui sont très achalandées. Nous, au transport adapté, on va chercher les gens dans leurs rues. Alors, les rues secondaires, eux, ne sont pas nécessairement déblayées. Dans le cas qui nous concerne cette année, lorsqu'il y a eu deux tempêtes une arrière de l'autre. Effectivement, il y avait des rues qui étaient presque inaccessibles en minibus et il y en a d'autres, même en taxi, qui étaient très difficiles. Alors, on se devait de faire...
Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
Alors, c'est exactement ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré sur ceux qui avaient déjà réservé. Et on a fait attention de ne pas sur-réserver pour être en mesure de pouvoir au moins transporter les gens qui avaient déjà réservé de façon sécuritaire et ne pas non plus les mettre en danger, autant la clientèle que nos chauffeurs.
OK.
Ceci dit, Mme Hottin a raison, cette année, de mémoire, je crois que dans les dernières années, on a toujours été en mesure de pouvoir offrir une alternative aux clients parce qu'on disait demain, malheureusement, on ne peut pas vous réserver en heure de pointe, sauf travail médical, travail-études. Mais cette année, c'est la première fois qu'on devait, carrément, pour une journée, en tout cas de mémoire, là, qu'on devait aller jusqu'à refuser tout déplacement. Parce que là, la capacité véhiculaire qu'on avait versus ceux qu'on avait déjà engagés, il y avait déjà des réservations, il fallait au moins les transporter puis de façon sécuritaire.
C'est sûr que ce serait vraiment une question dont il faudrait débattre. Probablement qu'on aurait besoin d'une autre table ronde pour le faire. Il y a ce refus, j'oserais dire, systémique. Donc, on décide que tout le système refuse pour une raison très, très particulière. Mais il y a des histoires qui sont un peu ressorties. Et je m'adresserai aussi à Marie Hottin, à Annie Hottin, qui a sûrement reçu ces plaintes-là. Il y a des histoires qui sont sorties dans les médias, notamment les déneigements difficiles dans l'arrondissement Saint-Henri à Montréal, ou encore l'histoire sordide de Charles-Éric Brown-Laroche, qui subit des traitements contre le cancer et qui n'a pas pu sortir de chez lui. Alors là, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est une autre situation, celle-là. C'est qu'on ne peut absolument pas aller chercher la personne parce que tout est encombré de neige et qu'il y a une règle à cet égard. Le transporteur ou en fait la STM ne peut pas transporter la personne de manière sécuritaire ou même ne peut pas déployer la rampe dans certains cas. Annie Hottin, je vous demanderais de réagir à cette question-là. Est-ce que vous trouvez que ces situations sont importantes? Est-ce qu'on peut faire quelque chose?
Que les trottoirs soient bien déneigés?
Notamment?
Bien, c'est sûr que c'est important. Moi, je considère qu'il n'y a pas personne qui ne devrait pas pouvoir avoir un transport, peu importe sa raison. Maintenant, c'est un peu difficile pour moi de commenter sur ça, parce que moi, avec la ville, par rapport au déneigement, je n'ai pas vraiment de contact, à part qu'on y a un comité là, qui est en place, mais de ce que j'en sais, c'est plus un travail auprès des déneigeurs pour lui montrer comment bien déneiger, puis qu'est-ce qui est prioritaire, tout ça. Mais la ville a une politique de déneigement et comment ces déneigeurs font le travail. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Là.
Okay.
On peut voir là, ce qui est arrivé là, où c'est avec le déneigeur qui s'est fait enlever son contrat parce qu'il arrachait tout sur son passage. C'est ça.
Bien, écoutez, normalement, on devrait passer à notre segment à l'émission, mais je vous donne une minute de plus, OK? C'est important, parce qu'il faut que les gens sachent qu'il y a un dialogue entre la STM et les organismes comme le RUTA Montréal. J'aurais aimé qu'on en discute davantage, mais donc, vous allez vous reparler après cette émission-ci. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire là, comme solution pour améliorer, vitement, à court, moyen, long terme? Vous avez 30 secondes chacun. Mario Gagnon, qu'est-ce qu'on peut faire?
À court, moyen, long terme, bien sûr, je ne peux pas passer à côté du fait qu'éventuellement, on va géolocaliser l'ensemble de nos véhicules. On parle de 1500 taxis et 86 minibus qu'on va géolocaliser dans l'ensemble de la ville pour être en mesure de pouvoir gérer en temps réel et être proactif dans nos déplacements pour être en mesure de pouvoir réagir s'il y a des retards. Mm-hmm. Mais encore mieux, pour sécuriser la clientèle, 10 minutes à l'avance, la géolocalisation du véhicule va permettre d'appeler, soit par SMS ou par téléphone.
La solution, Mario Gagnon, directeur du transport adapté de la STM, c'est cette géolocalisation-là avec rappel aux personnes quelques minutes avant qu'on vienne la chercher. Annie Autin, ça serait quoi la solution?
À très court terme, maintenant, demain matin, là, c'est la communication, le moyen de communiquer avec la clientèle d'une façon très large, mm-hmm. pour leur permettre de comprendre et de connaître c'est quoi les règles lors des tempêtes. Mm-hmm. Comme ça, c'est un peu moins frustrant quand ça nous arrive, même si c'est frustrant pareil. Et ensuite, ben, c'est bien d'avoir changé la méthode, mais là, on s'aperçoit que la méthode, c'est pas nécessairement peut-être la meilleure. Mm-hmm. Fait que peut-être de s'asseoir encore avec les gens du milieu ou les gens de la clientèle pour voir comment on pourrait essayer d'améliorer tout en respectant naturellement les capacités de payer et de fonctionner de la STM, mais quand même, c'est pas un luxe d'avoir du transport adapté, hein. C'est ni spontané, ni... C'est très contraignant, alors...
Donc, c'est important pour tout le monde, on l'entend. Oui. Donc, oui. Mario Gagnon, où on peut avoir davantage d'informations sur ce qui se fait en ce moment et ce qui est à faire au transport adapté?
C'est une des raisons que je suis ici.
Ah, bon, déjà?
Si vous voulez m'inviter à nouveau, ça me fera plaisir.
Bien, c'est ça qu'on va vous réinviter. Et on rappelle qu'on peut avoir plus d'informations au stm.info, rubrique transport adapté. Annie Autin, on peut retrouver plus d'informations aussi au rutamtl.com, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
rutamtl.com. Merci beaucoup à vous deux. On va réussir par sortir de notre garage pour aller quelque part en transport adapté. Promis.
Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Bye-bye.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Guillaume Poul. J'ai le plaisir d'animer cette assemblée ce soir, une assemblée nouveau genre. Vous le voyez sur vos tables, il y a des tablettes. Ce n'est pas des petites présences. Mais ce seront des outils qui vont nous aider et vous aider à vous parler, à nous parler.
Vous aider à nous parler, vous aider à se parler. En fait, vous avez compris, c'était l'extrait d'une soirée du mouvement « Faut qu'on se parle » qui se réunissait à la fin 2016. Comme vous le savez peut-être, ce dernier mouvement a porté fruit jusqu'à donner une publication résumée de la démarche intitulée « Ne renonçons à rien » et publiée par la maison d'édition Luxe. Le livre, c'est surtout dans le but de raconter la démarche qui a été faite, et c'est cette démarche « Faut qu'on se parle » qu'on pourrait entendre comme une manière chaleureuse de se dire « C'est un moment important et qu'on doit régler des choses ensemble. Permettez-moi de vous lire cet extrait qui rappelle l'isolement social et le manque de services. Le 6 décembre 2013, Chantal Provencher est morte de faim, seule dans son petit appartement de la rue Filion à Saint-Jérôme. Elle avait 50 ans. C'est le concierge de son immeuble et un stagiaire du groupe communautaire de quartier qui l'ont trouvée, étendue sur le sol de sa cuisine. Selon le rapport d'enquête du coroner qui a examiné son cas, ce terrible dénouement était prévisible. La quinquagénaire était très malade, se déplaçait difficilement, maigrissait à vue d'œil. Elle avouait avoir des pensées suicidaires. Durant l'année qui a précédé sa mort,
ses proches et elle ont demandé à 4 reprises de l'aide médicale et psychologique au CLSC de son quartier. Jusqu'à sa mort, on a jugé qu'elle n'avait pas besoin de services à domicile. Ce sont des histoires comme celle-là qu'on entend, et là je ne lis plus, dans ce livre, des prises de parole, des gens entre autres oubliés. Anne à Bonaventure, rappelle-t-on dans le livre, rappelle que ces femmes de 50 ans qui ont donné, qui n'ont pas vécu toujours dans l'opulence, ont donné beaucoup à la société et aujourd'hui sont seules et isolées. Il faut penser aussi à elles. Quand on se dit, il faut qu'on se parle. Si vous voulez entendre plus d'histoires pour lesquelles on doit se solidariser et changer les choses, lisez « Ne renonçons à rien ». C'est le titre. Il est en librairie depuis le 16 février et publié chez Lux Éditeur. Il fallait bien que ça arrive un jour. La réadaptation a trouvé un nouveau lieu, un nouveau centre pour se dérouler, la réalité virtuelle. Donc oui, si vous avez vécu un AVC ou encore si vous voulez vous entraîner, il y a un chercheur qui a découvert comment vous aider. On reçoit donc le chercheur au centre de recherche du CHUM, David Labbé. Bonjour docteur.
Bonjour.
Je sais que c'est rare qu'on vous intitule docteur. On oublie que les gens comme vous qui font de la recherche très souvent s'appellent aussi docteur.
Oui, en fait, c'est ça. J'ai un doctorat en génie dans mon cas, mais je ne suis pas clinicien. Non.
Bon, voilà. Et vous cherchez des solutions. Par où vous avez commencé d'ailleurs? Quelles sont les recherches qui vous ont mené, à vous intéresser à la réadaptation physique?
En fait, au début, j'ai travaillé, pendant mes études postdoctorales, j'ai travaillé avec la réalité virtuelle pour améliorer le contrôle moteur des athlètes. Pour améliorer leur performance. Et puis, donc, on faisait de l'entraînement cognitif, l'amélioration du mouvement des athlètes. Et puis, on voit que plusieurs de ces méthodes-là peuvent être transposées à la réadaptation. Donc, on peut utiliser un petit peu les mêmes méthodes pour améliorer la réadaptation de gens, là, soit qui ont subi des AVC ou autres.
Donc, au départ, vous êtes surtout intéressé aux gens, disons, qui faisaient du sport, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Puis vous êtes rendu compte. OK. Vous êtes rendu compte que c'est un peu la même chose, qu'on réapprenne à marcher ou qu'on apprenne à marcher plus vite. C'est un peu les mêmes procédés.
Ouais. Dans un sens, oui. En fait, c'est que la réalité virtuelle peut permettre les mêmes genres d'optimisation de l'entraînement, si on veut.
OK. Permettez-moi une dérive, parce que, bon, on a probablement à peu près le même âge. Est-ce que vous croyez que vous êtes un geek? Est-ce qu'on peut vous présenter comme ça?
Oui, j'imagine. J'ai toujours été pas mal adepte des technologies, pas mal...
Versé dans les technos, oui?
Oui.
OK, bon. Et est-ce que vous êtes nombreuses à faire des recherches dans ce secteur-là, le 3D?
En fait, en recherche, c'est pas un énorme créneau, mais quand même, c'est assez à la mode présentement, là, tout ce qui est virtuel, 3D, donc ça prend de l'expansion pas mal rapidement.
Ouais. OK, donc c'est un grand secteur, assez populaire, mais vous, comment vous arrivez à utiliser le 3D pour aider à la réadaptation concrètement?
Ouais, fait que dans le fond, la beauté de la réalité virtuelle, c'est qu'on est capable de... Dans le fond, on met les gens dans une simulation virtuelle. Donc, ils rentrent dans un monde virtuel où on contrôle tout.
OK.
Donc, on peut contrôler tout ce que la personne voit. On peut changer la réalité pour rendre des tâches plus faciles puis les rendre tranquillement plus difficiles au fur et à mesure que les gens, que les patients s'améliorent ou les athlètes. Et nous, en plus, bon, ce qu'on peut faire quand on met les gens dans un casque de réalité virtuelle, c'est qu'on contrôle aussi leur propre apparence. Donc, ils ne voient pas leur corps directement. Ils voient celui d'un personnage virtuel, donc d'un avatar. Et on a le contrôle sur ce qu'ils voient, dans le fond, de leur mouvement. Donc, c'est là où...
Mais attendez, c'est fascinant ce que vous dites. Est-ce que ça arrive, parce que vous avez sûrement fait des études avec des sujets qui vivaient la réadaptation par des modes virtuels, est-ce que ça arrive que parce qu'on est... très conscient que notre corps a des limitations fonctionnelles, on n'ose pas exécuter des actions ou faire des mouvements?
Non, c'est pas dans ce sens-là. En fait, nous, principalement, nos recherches actuellement, on a démontré la faisabilité de nos méthodes sur des participants qui étaient sains. Mm-hmm. Et on est rendu à les appliquer avec des gens qui ont certains déficits moteurs.
Okay.
Mais l'idée, c'est que on montre aux gens, en fait, initialement, ils bougent et ils voient l'avatar qui fait exactement ce qu'eux font.
Mm-hmm.
Mais tranquillement, on peut tricher. On peut montrer quelque chose qui n'est pas tout à fait le mouvement que les gens produisent. Donc, on peut montrer, par exemple, un mouvement qui est plus proche de ce que la personne voudrait faire comme mouvement que ce qu'elle est capable de faire à cette étape-ci de sa réadaptation.
Et qu'est-ce qui se passe concrètement pour le rétablissement de la personne? Est-ce que ça permet justement de pousser plus loin, de faire des efforts qu'on jugeait être incapable de faire?
Oui, ben ce qu'on voit, par exemple, quand on marche, donc dans notre cas, on travaille beaucoup à la marche avec nos... En fait, donc moi, je suis plus du côté technologique. Je travaille avec des gens de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay, mm-hmm. qui sont plus ferrés en réadaptation motrice.
Oui.
Donc, on travaille beaucoup à la réadaptation de la marche. Et puis, l'idée, c'est que, dans le fond, supposons une personne qui marche de façon asymétrique,
mm-hmm.
elle se voit dans le monde virtuel marcher de façon asymétrique, mais tranquillement, on réduit cette asymétrie-là. On fait en sorte qu'il voit un mouvement qui est un petit peu plus, si on veut, idéal que ce qu'elle produit réellement.
Mm.
Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que les gens ont tendance à suivre le retour visuel qu'ils ont. Si on l'implémente comme il faut, si le délai est suffisamment court entre le mouvement de la personne et celui dans le monde virtuel, ils utilisent ça comme guide pour leur mouvement.
Ah,
donc, en trichant sur ce qu'ils voient, on modifie leur mouvement.
Ben, écoutez, c'est une très belle trajectoire que vous avez dessinée pour encore probablement beaucoup de chercheurs et aussi pour vous. En 30 secondes, où elle va, votre recherche? Où vous allez comme ça avec le monde virtuel et la réadaptation?
Ben, en fait, on veut voir c'est quoi les limites de ce qu'on peut modifier du mouvement des gens. Donc, jusqu'à quel point on peut tricher sur ce qu'ils voient puis mm-hmm. manipuler leur mouvement. Donc, on regarde les différents paramètres de la marche qu'on peut affecter.
Mm.
Et bon, là, on a montré qu'on peut l'affecter chez des gens qui sont en santé. Après, la prochaine étape, c'est de confirmer que ça fonctionne aussi chez des gens qui mm-hmm. ont des déficits.
OK. Ben écoutez, je ne jouerai pas à Warcraft contre vous. Vous allez tricher.
Ouais.
Non, mais je blague. Mais écoutez, très sérieusement, je n'ai pas envie de réduire ce que vous faites à un jeu parce que c'est fascinant. En fait, je dois vous avouer que je n'avais jamais rien vu de tel. Je suis sûr que les gens à la maison se disent la même chose. Donc, si on a envie de voir de plus près l'avancement de vos recherches, est-ce qu'il y a un site ou un endroit où on peut vous repérer, docteur Labbé?
Bien, en fait, sur mon site personnel de l'ETS, donc je suis chercheur au CHUM, mais aussi professeur à l'École de technologie supérieure. Donc, mm-hmm. Si on va sur la page de l'ETS et on va sur ma page personnelle, on voit des petits clips des différents projets sur lesquels on travaille.
Génial. Donc, rendez-vous sur les clips. Merci beaucoup, Dr. Labbé.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.
Merci. Donc, Dr. Labbé est chercheur au Centre de recherche du CHUM, aussi professeur à l'ETS. Et on peut aller sur le site web, comme il le disait, pour avoir plus d'informations en repérant par son nom ses recherches, David Labbé. Merci beaucoup à tout le monde qui a participé à cette émission. Omar Lacheb, qui a d'autres projets pour faire avancer l'accessibilité, en plus d'avoir eu gain de cause contre l'Université de Montréal. Émilie Bouchard, la bonté, qui nous fait vivre du paraski. Génial. Annie Morissette, de Finhandicap, qui nous rappelle que c'est les impôts, mais il existe quelques moyens d'avoir des déductions fiscales. Et bien sûr, on a eu Mario Gagnon et Annie Hautin, donc respectivement directeur au transport adapté de la STM et directrice générale du Retour à Montréal. Merci à vous parce qu'on le sait, l'hiver, on fait des pieds et des mains pour prendre le transport adapté. On va finir par y arriver. Donc, cette émission est possible grâce à des gens formidables que je remercierai une autre fois. Ici Benoît Racette, on se reparle la semaine prochaine et ouvrons ensemble une place pour qu'éventuellement, il y ait un véritable accès libre qu'on passe avec notre transport adapté.